5, 4, 3, 2, unité, top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Le riz est plus évolué que nous. Et c'est pour ça qu'il a plus de gènes.
Celui qui avale une noix de coco a confiance en son anus.
La poésie qui est aussi une arme de libération.
Moi j'engage le tueur à gage.
C'est pas gaz de schiste pour rien.
Carrément à l'échelle du quartier, il y a une approche vraiment bioclimatique.
C'était un bordel musical pas possible.
Écoute ça.
Très beau, très esthétique et aussi assez terrifiant.
C'est une des théories, effectivement, qui est privilégiée par les historiens.
Sur des grosses bobines.
Qui permettent aux jeunes artistes de se situer et surtout de se structurer.
Cet échange Aimé Césaire contre une musique pour les Chibani.
Ici, on est des hackers, waouh, on a un oscilloscope.
Une appropriation et aussi dans une transformation de ces technologies.
Sur le chemin d'une société qui soit un peu plus apaisée.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
À voir, à entendre, à toucher.
C'est quelque chose d'assez connu quand même dans le Sud.
Ouais, Divergence, on sent bien, c'est pour ça qu'on revient.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette auberge espagnole du mardi 11 février 2014. Nicolas Catin sera avec nous dans quelques minutes pour parler du 31e Café Climat. Ce soir à l'Agence locale de l'énergie, on parlera des nouveautés 2014 en matière d'aide financière pour la rénovation énergétique de votre Domus. Et puis on parlera patrimoine avec l'association Acanthe qui organise ces 14 et 15 et 16 février un rendez-vous à l'abbaye du Vignogoul au cœur de l'abbaye. Découvrez Vignogoul et puis Hélène Déméné de l'association Les Enfants d'Hélène viendra nous parler de leurs besoins urgents d'un nouveau local pour continuer à accueillir indifféremment enfants handicapés et enfants normaux à Montpellier les mercredis et vacances scolaires. Côté culture, c'est Grégory Diguet qui viendra nous dire tout sur le Tropisme Festival, le nouveau nom du Festival Montpellier à 100% qui, après 12 années d'existence, eh bien, prend le tournant numérique. Pour l'heure, un petit peu de musique avant de parler climat.
Yeah, money. Without money, what would we do? We got a little idea. We see what's going on. They say money is the root of all evil, but ain't nothing evil about money. Because we need that money to pay the bills, to pay the rent, huh? Banks folding, president scratching his head, the economy is down, Wall Street about to lose them out, and up and down, gas prices up and down. Nobody knows what to do. You know what we need, though? Money! Where have you gone to? Money! Where have you gone to? I got to pay my bills, got to pay my rent. I'm hungry and tired, but my money's all spent. Money! Where have you gone to? Money! Where are
something that I said was the
Money, l'excellente Sharon Jones et ses Dap Kings. Et on va parler un petit peu de Money Money, puisque ce 31e Café Climat se propose de revenir sur les nouveautés 2014 en matière d'aide financière à la rénovation thermique pour les particuliers. Et ce sont Nicolas Catin et Morgane Porret de l'Agence locale de l'énergie qui sont avec nous. Bonjour.
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 Alors, 31e Café Climat, ça sera l'occasion de se mettre sur son 31. Mais sans mauvais jeu de mots, un sujet qui était déjà évoqué, si je ne m'abuse, sur les ondes de France Bleu Héros ce matin, à moins que c'était une autre radio. Oui, c'était bien ça, j'écoutais ça dans le bus, ça m'a fait bien rigoler. Mais le sujet est plutôt sérieux, puisque les dispositifs financiers d'incitation à la rénovation énergétique des bâtiments, etc., c'est un petit peu comme les pourcentages sur les indices fiscaux ou sur les fiches de paye. Ça varie tellement souvent qu'au bout d'un moment, on en perd le fil. Et c'est pour ça que l'Agence locale de l'énergie a ce sujet-là un peu comme un marronnier qui revient assez régulièrement, régulière la mise à jour de ces dispositifs. Est-ce que c'est un peu le parcours du combattant pour les gens de s'y retrouver ?
Alors on va répondre franchement. Effectivement, il y a quand même une diversité en fait, d'aides financières possibles actuellement, fonction de tout un tas d'aspects, l'aspect technique, l'aspect de revenus fiscaux en fonction du demandeur du type d'aide, des choses à demander en amont, des choses qui vont avoir lieu en aval. Donc voilà, c'est une évolution, effectivement, vous l'avez évoqué, en 2014, il y a été une petite refonte de certains des dispositifs. Peut-être pour rappeler quelques éléments de contexte, je pense que certains des auditeurs, ou peut-être la majorité d'entre eux, ont entendu soit sur les ondes, soit à la télé, une campagne de communication, la campagne « J'éco-rénove, j'économise », avec l'ADEME, l'État, voilà, il y a une dame là, qui a du froid qui rentre chez elle, et puis elle entend qu'elle peut avoir 80% d'aide pour améliorer son logement. On se replace vraiment dans ce dispositif-là, parce que l'État a souhaité avoir un guichet unique national, avec un numéro de téléphone national qui renvoie ensuite vers des opérateurs comme nous ici sur l'agglomération de Montpellier par exemple, ou la DIL 34, l'agence d'information du logement de l'Hérault, et qui va renseigner en fait le grand public. L'idée c'est de faciliter un petit peu le parcours de rénovation énergétique des particuliers. Et donc ce soir on va vraiment zoomer effectivement sur les nouveautés en termes d'aide financière. Mais alors pour revenir à la question initiale, effectivement c'est assez dur d'être très pédagogique sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui cohabitent entre elles, il y a des cumuls possibles, d'autres pas, donc c'est intéressant de faire le point, et chaque cas de figure peut trouver, chaussure à son pied j'allais dire, mais une aide financière associée.
Pour que les gens ils comprennent comment trouver chaussure à leur pied en quelque sorte, pour qu'ils se fassent une idée, c'est quoi, ça se compte par dizaines les types d'aides possibles ?
Là, actuellement, en termes de cumul, il y a au moins 6 ou 7 aides qui sont un peu là en parallèle. Et je le disais, certaines se cumulent, d'autres pas. Donc, c'est bien de faire le point un peu, qu'on soit, il y a l'aspect collectif en copropriété, il y a l'aspect individuel, qu'on soit bailleur, qu'on soit locataire. L'idée, c'est vraiment de diversifier, même si la majorité des aides vont plutôt s'orienter vers les propriétaires occupants. C'est quand même un petit peu ce qui ressort vraiment globalement cette année.
Alors, des dispositifs, des nouveautés 2014 que l'on connaît déjà ou qui sont déjà applicable, parce qu'il y a des fois où on a une information, on sait qu'à partir, du 14 avril ou du 31 mai, on pourra faire ceci, cela. Est-ce que les nouveautés 2014 sont toutes publiées et toutes utilisables depuis le 1er janvier ?
Alors, toutes les nouveautés sont toutes publiées, donc on a vraiment l'essentiel des informations. Après, il y a quelques détails, on va dire, en termes d'application. On a encore quelques zones d'incertitude, notamment, parce qu'il y a une nouveauté qui est intéressante, qui va concerner les gens, c'est la TVA à 5,5. Vous savez, toutes les TVA ont été augmentées à 10 et 20%, et il y a une petite bulle, une petite niche, entre guillemets, pour la rénovation énergétique avec une TVA à 5,5%. Donc c'est là, on a les éléments, mais on manque un petit peu d'infos précises sur les contours de cette TVA-là, parce qu'elle va concerner bien sûr les travaux, mais aussi c'est des travaux qu'on appelle associés, style peinture ou autre. Voilà. Donc là, on attend un petit peu des précisions par rapport à ça. Mais après, globalement, l'essentiel des dispositifs est en place.
C'est-à-dire qu'il y a même des aides pour, on va dire, pas les dommages collatéraux, c'est un peu méchant de dire ça, mais je veux isoler mon bâtiment par la façade. Une fois que l'isolation sera faite, il va falloir refaire un truc esthétique, pour de la peinture ou un crépi ou que sais-je. Et là aussi, on peut recevoir des aides qui permettent finalement de boucler le chantier.
Alors oui, effectivement, ça va dépendre des aides. Certaines sont applicables seulement, on va dire, aux matériaux isolants ou à la chaudière, alors que d'autres aides vont prendre les travaux de manière beaucoup plus globale et vont prendre en compte justement, c'est un très bon exemple, l'isolation par l'extérieur, parce qu'on est obligé de faire un enduit esthétique ou un bardage. Ça peut rentrer dans le montant de certaines aides financières, effectivement.
Et donc ça s'adresse évidemment à tous les propriétaires qu'ils louent ou qu'ils habitent leur bien immobilier. Là aussi, j'imagine que les aides sont pas forcément les mêmes.
Alors oui, effectivement, oui. C'est vrai que c'est... Alors, tu évoquais le fait que ce soit un marronnier, effectivement, mais à chaque fois, c'est des cas de figure. Vraiment, les gens qui nous sollicitent, en fait, on le voit très bien au sein de l'Agence locale de l'énergie. On fait du cas par cas, un petit peu en fonction du type de travaux, de la typologie du demandeur, et on va l'orienter vers le type d'aide qui va bien à chaque fois. Mais effectivement, c'est très différencié. Pour les propriétaires bailleurs, on va dire que le champ se réduit à un chouïa, parce que je l'évoquais, vraiment, l'accent est mis plutôt sur les propriétaires occupants. Donc vraiment les gens qui sont dans leur logement. Et pour tous les locataires qui nous écoutent, ils peuvent malgré tout solliciter leur bailleur, parce qu'il y a quand même 2-3 options quand même pour essayer d'améliorer les logements qui ne sont pas défavorables pour le bailleur malgré tout.
Le bailleur qui a toujours intérêt de toute façon à avoir un bien immobilier qui soit en bon état, qui soit au top énergétique, puisqu'il aura plus de facilité à trouver des locataires.
Et ben voilà, il a plus de facilité à trouver des locataires, il va louer un peu mieux financièrement, il va louer plus longtemps surtout, plus durablement, il va améliorer le confort énergétique de ses locataires. Donc voilà, en fait, on met des pions pour l'avenir par rapport à son logement qu'on loue.
Le rendez-vous, c'est ce soir, c'est de 18h30 à 20h, place Paul Bec, à l'Agence locale de l'énergie.
Tout à fait.
Tout à fait. C'est dans la limite des places disponibles, donc il vaut mieux réserver au 04 67, si je ne me trompe pas, de mémoire 91 96 deux fois.
Alors, il n'y a pas de réservation, non. En fait, mais par contre, effectivement, c'est dans la limite des places disponibles, donc il y a un moment où peut-être on sera obligé de refuser les gens, donc voilà, il faut essayer de ne pas arriver en retard, en tout cas.
Voilà, soyez à l'heure. C'est à 18h30, le 32e Café Climat, ce sera quand ?
Ce sera le 8 avril prochain, et là, on va aborder la question des changements de fournisseurs d'énergie. Vous savez que depuis quelques années, les particuliers peuvent en fait choisir leur fournisseur d'énergie. C'est encore très peu connu. Hein. Très peu de gens ont franchi le cap d'aller chercher un autre fournisseur alternatif.
Pourtant, c'est pas qu'ils redoublent d'efforts quand même pour téléphoner aux gens en leur disant « Oui, vous êtes propriétaire ». Non, non.
Alors justement, là, il y aura l'association de consommateurs CLCV là, qui sera présente parce qu'il y a pas mal de litiges associés à ça, de démarchage un petit peu agressif, effectivement.
Absolument.
Des nouveaux fournisseurs là, qui arrivent sur le marché. Et puis, il y en a certains qui sont un peu plus vertueux, on va dire, que d'autres, qui proposent des énergies renouvelables, de l'électricité verte, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, on essaiera un petit peu faire le tour de la question et ça va être intéressant.
Précisons que ce soir, pour ce Café Climat de ce soir, consacré donc au dispositif d'aide financière, à la rénovation thermique des bâtiments, il y aura des représentants des collectivités qui seront présents.
Oui, tout à fait. Nous avons la région Languedoc-Roussillon qui a lancé un prêt qui s'appelle le prêt Rénovelair, donc il va pouvoir détailler un petit peu en quoi ça consiste. Et puis aussi l'agglomération de Montpellier, voilà, parce qu'ils ont lancé ce qu'on appelle un programme d'intérêt général sur la rénovation. Et pour faire simple, l'agglomération de Montpellier bonifie les aides nationales de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et donc localement, on aura toutes les informations pour en bénéficier au mieux.
Et c'est donc ce soir à partir de 18h30 de place Paul Bec. Nicolas Catin, Morgane Porré, on vous remercie beaucoup. On se retrouvera bientôt sur les ondes de Divergence pour de nouvelles aventures. Et je rappelle que c'est sur www.ale-montpellier.org que l'on trouve tous les rendez-vous de l'Agence locale de l'énergie de Montpellier.
Merci.
Merci.
On enchaîne avec de la musique pour rester au chaud. Ce sera le Mardi Gras Brass Band avec This Is Heat.
Ladies and gentlemen, for the next 2 hours, we will be playing nothing but the best polka music ever recorded. We'll be right back.
Dans cette auberge espagnole, c'est à présent Simon Azéma et Nicolas Morestin que nous recevons au présent. Bonjour.
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 Alors, vous êtes tous les membres de l'association ACANT qui organise ces 14, 15 et 16 février un rendez-vous autour du patrimoine de l'abbaye de Vignegoul, à Pignan, qui s'intitule « Au cœur de l'abbaye, découvrez Vignegoul », en précisant que l'association ACANT réunit la 22e promotion du Master 2 Valorisation et médiation des patrimoines de l'Université Montpellier 3, avec pour mission de valoriser un site patrimonial de la région Languedoc-Roussillon. Donc cette année, sur ce site qui est assez régulièrement mis en valeur lors des journées du patrimoine, etc. Un site assez exceptionnel en soi.
Oui, tout à fait. Donc, c'est dans le cadre de notre formation universitaire, comme vous l'avez dit. Donc, on nous a confié la mission de faire un week-end événementiel sur ce site-là. Donc, c'est un site à l'actualité culturelle forte, puisqu'il est amené à devenir un centre de recherche pour la musique médiévale, donc à accueillir une résidence d'artistes, ce qui se fait actuellement depuis un petit moment. Donc voilà, dans ce cadre-là, on a pour mission à la fois de valoriser le chant et le côté patrimonial, l'architecture de ce lieu qui est assez exceptionnel.
Et un peu l'histoire aussi de ce lieu, parce que ce lieu a aussi été à une époque une espèce d'hôpital pour gens en situation de handicap, psychomoteur, etc. Donc j'imagine que du coup, ce n'est plus le cas.
Alors là maintenant, il y a une association qui accueille des enfants en difficulté, mais nous on va principalement l'axer sur l'aspect culturel, sans oublier ça bien sûr, avec une vision assez multiple, donc patrimoine, le patrimoine, l'abbaye elle-même, le jardin, la musique, voilà, on va essayer de balayer tous les aspects à travers diverses activités, donc il y aura une visite guidée et chantée avec un partenaire, donc un ensemble de musique médiévale, de chants médiévaux, Hortus Deliciarum. Donc c'est une visite qui tentera d'aborder tous les aspects historiques de l'abbaye et ce sera entrecoupé d'interventions musicales. Les autres activités, donc des carnets de découverte pour adultes et pour enfants, pour découvrir le patrimoine de l'endroit de manière très ludique. On pourra aussi déambuler dans le jardin pour découvrir donc les dessins des enfants d'école de Pignan qui ont refleuri le jardin en ce mois de février. Pour le moment, pas grand-chose ne pousse. Et il y a aussi des visites organisées par Luc Ménard qui est responsable de l'association Eco-Jarvie, donc qui permettra de faire découvrir ce jardin à travers les âges.
Alors, combien de temps ça vous a pris pour organiser tout ça, sachant que il a fallu que vous vous documentiez un petit peu sur le site, que vous alliez le visiter, que vous rencontriez les personnes que vous avez sélectionnées pour organiser ce week-end de découverte. Sur combien de temps s'est étalé ce devoir appliqué?
Alors, vraiment depuis septembre, même s'il y avait déjà eu des prises de contact. On avait visité en février donc 2013 l'abbaye pour déjà voir un peu le lieu, parce que tous les gens de la promo ne sont pas de la région. Et vraiment donc depuis septembre, après l'organisation des journées du patrimoine où on était ailleurs, donc on a commencé à bosser sur le sujet en se répartissant donc en commission, donc pour les activités dont on a parlé, plus toutes les autres, le grand jeu, l'exposition, l'atelier d'essence. Donc on s'est répartis en commission de travail, on et off, c'est-à-dire on ce que les gens vont voir le jour J, donc la visite guidée, le grand jeu, etc. Et off, donc tout ce qui est communication, logistique, etc.
Avec, j'imagine, un petit peu de budget, parce que tu parlais de documents qui permettent de découvrir le site, etc. Ça se monte à combien?
Oui, alors là, donc on a fait plusieurs démarches de subvention dans les différentes collectivités. Donc là, on a eu la chance d'être subventionné par la région et aussi par la DRAC, qui est la Direction régionale des affaires culturelles.
Financière naturelle.
Voilà, souvent finance le master pour ce genre d'événement. Donc on a ces deux partenaires privilégiés.
Qui vous ont permis de récolter un budget suffisant, de l'ordre de combien?
Tout à fait. Alors là, le budget s'élève à 10 800 euros. Donc il faut savoir que dans ce budget, il y a tout le fonctionnement, mais il y a aussi une partie pour les partenaires. Donc on a plusieurs partenaires, vu qu'on fait un concert par journée d'événement. Donc on commence avec le chœur universitaire de Montpellier à 20h, donc vendredi. Donc, qui sera précédé dès 19h, ça sera l'inauguration dans ce cadre-là. Ensuite, le samedi, ça sera le concert d'Hortus Deliciarum, donc, qui est notre partenaire privilégié, qui nous aide à faire les visites, qui est vraiment, c'est un groupe aussi également d'étudiants en musicologie ou d'anciens étudiants. Donc voilà, c'est vraiment notre partenaire principal. Et ils chanteront le samedi à 18h avec le jeune chœur du conservatoire de Montpellier. Donc voilà. Et c'est Hortus Deliciarum également qui clôturera le week-end dimanche et dans un concert participatif. Donc dans la journée, le public pourra assister à un stage d'environ 2-3 heures et ils seront amenés à faire entendre leur voix pendant le concert.
Ce qui est quand même une riche idée, parce que c'est vrai que les gens sont toujours intéressés finalement de participer. Comme disait Franck Zappa, les gens vont voir des concerts pour qu'il leur arrive quelque chose et pas simplement pour rester assis et écouter. On rappelle qu'on peut retrouver tous les détails de cette programmation sur http://assoacanthe, tout attaché à 2SOACANTHE.wix.com, qui est le site internet de l'association. On vous remercie d'être venu nous en parler, le temps qui nous était imparti est déjà presque largement dépassé. On vous souhaite de passer un excellent week-end et que tout plein de gens viennent voir et participer, voir le résultat de votre travail et participer à l'événement.
Merci beaucoup.
On vous attend nombreux.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Et c'est Les McCann et The Jazz Crusaders qui nous accompagnaient avec Spanish Castles, des châteaux en Espagne. Eh bien, on va préférer ne pas s'en faire, puisque l'heure est grave. Hélène Déméné, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes de l'association Les Enfants d'Hélène.
Tout à fait.
Les Enfants d'Hélène qui, depuis 2008, est un centre de loisirs associatifs qui accueille indifféremment enfants handicapés et enfants normaux. Et qui, bien en partie, suite au changement des rythmes scolaires, ce qui peut être une bonne chose en soi, vous pose un sacré problème sur lequel vous coincez depuis plusieurs mois, peut-on lire sur votre site, à savoir de trouver un nouveau local pour que l'activité de cette association puisse se poursuivre.
Tout à fait, puisque la mairie de Montpellier nous avait gracieusement prêté une école, les lieux d'une école pour les mercredis et les vacances scolaires. Et maintenant, évidemment, on n'aura plus à disposition les locaux de cette école le mercredi matin. Cette école, c'est l'école Geneviève Bon au quartier du Petit Bar. Et donc, on est à la recherche d'un local qui nous permette d'accueillir les enfants en toute sérénité, notamment les enfants handicapés, dont beaucoup ne sont pas scolarisés le mercredi matin et pour lesquels les parents n'auront plus de solution d'accueil. Dont mon fils, par exemple.
D'accord. Alors, j'imagine que vous avez dû en informer la mairie, ou que c'est la mairie qui aurait peut-être... qui a dû vous informer dans un premier temps que le local serait plus disponible.
Voilà. Donc, c'est à double sens. On est en contact et avec M. Gély et avec Mme le maire. Mais c'est vrai que, là, il y a la réforme des rythmes scolaires qui leur donne fort à faire, eux aussi. Et pour l'instant, on est à la recherche de bonne volonté pour nous aider à trouver ce local qui doit quand même répondre à quelques exigences,
non être mixité, normes,
voilà, être aux normes. Et surtout, on voudrait éviter le fait de bouger les enfants entre midi et deux. D'abord parce qu'on n'a pas de flotte de véhicules. Et pour l'instant, c'était un peu la solution qui nous avait été proposée. Et ça, on a pas mal d'enfants autistes. Les accueillir dans un lieu le matin puis après les bouger pour réintégrer l'école l'après-midi.
C'est pas forcément l'idéal.
Voilà, exactement.
Mmh, mmh. Alors, quelles sont les caractéristiques du local dont vous auriez besoin en termes de, je sais pas, de superficie, d'équipement?
Alors, c'est ça le problème,
ça dépend
grand,
du volume d'enfants que vous accueillez.
Voilà. On accueille à ce jour 31 enfants chaque jour d'ouverture. Et il nous faut deux petites salles, parce qu'il nous faut une salle pour les petits et une salle pour les grands. Une grande salle pour se dépenser s'il y a pas de, si le lieu extérieur est fermé. Un accès sur un lieu extérieur sécurisé. Une salle de sieste. Des toilettes pour les filles et pour les garçons séparées. Et un espace pour manger. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui ne se trouve pas comme par un coup de baguette magique. Mmh. On a également contacté les écoles privées, mais pour l'instant, on n'a eu aucun retour positif, puisque les écoles privées, elles, en général, ne vont pas basculer le changement de rythme scolaire. Donc voilà, on est ouvert à... C'est un appel à l'auditoire, et puis aux électeurs aussi, pour qu'ils fassent pression, parce que c'est vrai qu'avec les municipales qui arrivent, c'est un
tout
peu...
Tout devient un peu compliqué.
Oui, voilà, exactement. Mmh.
Mmh. Oui, parce que bon, la ville a quand même pas mal de foncier, sauf que bah, du coup, ça, si c'est pas un local tout près, ça voudrait dire ça serait un local dans lequel il faudrait faire des aménagements, des travaux, ce qui reporterait un petit peu la mise à disposition possible. Et là, vous avez le couteau sous la gorge pour la rentrée 2014, j'imagine.
Tout à fait. Voilà. Là, pour l'instant, on n'a aucune solution pour la rentrée 2014.
Donc, il vous reste 7 mois, 6 mois devant vous pour...
Vous me faites stresser, là, mais tout à fait.
Bon. Eh ben, en tout cas, j'espère que l'appel sera entendu. Les gens peuvent en savoir plus sur http://lesenfantsdhelene.blogspot.fr. Et puis en espérant que vous puissiez trouver ce nouveau local qu'il émane de la collectivité, des auditeurs, des citoyens ou je sais pas, d'un industriel fortuné qui aurait un local à mettre
sait-on
à votre
jamais.
Disposition sait-on jamais, mais les associations ont parfois besoin de mécènes. Merci d'être venu nous présenter votre message, et puis en souhaitant qu'il soit largement entendu.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. On va retrouver dans quelques petites minutes qu'on va passer avec Jonah, qui fait partie de la programmation du festival Tropisme. On retrouvera Grégory Diguet qui nous dévoilera tout de la mutation du festival Montpellier à 100% en festival Tropisme et de sa programmation qui offre une large part au numérique. Welcome. Et c'est Jonah qui nous accompagne sur les ondes de Divergence FM, extrait de son album Polychrome. C'est dans la caisse de Bill Carothers, Gates ou Evans, je ne sais pas de quel Bill il s'agit. Mais ce n'est pas Bill qui est avec nous, mais Grégory Diguet. Bonjour Grégory.
Bonjour Gilles, bonjour Divergence.
Alors on est ensemble pour parler du festival à 100% qui a aujourd'hui 12 ans, mais qui profite de cette adolescence pour changer de nom et qui s'appelle le Tropisme dorénavant. Ça se passe ces jours-ci. Ça se passe du 18 au 23, pour être plus précis, du 18 au 23 février. Donc un festival qui se spécialise, s'oriente, continue à s'orienter, on va dire, vers les formes numériques. 19 concerts, performances et expositions, 10 rendez-vous professionnels, 5 formations, un plateau média, 25 artistes programmés dans 15 lieux montpelliérains. Il vous reste quoi ? Il vous reste une petite semaine pour préparer tout ça. On rappelle pour ceux qui sont à Montpellier, et comme beaucoup des Montpelliérains qui n'y sont pas forcément depuis très longtemps, que le festival à 100% nous ramène 12 ans en arrière avec moult concerts sur le site de Gramont, des chapiteaux, et puis depuis 5 ans, je pense, ça s'est un petit peu recentré sur le centre-ville.
Ouais, 2008,
voilà,
ouais.
C'est ça.
Depuis 2008. Ouais.
Et puis, et plus vers des formes d'exposition, performance, faites aussi par des musiciens, comme on l'avait vu à Sainte-Anne avec l'expo travaux de...
D'Ezekiel.
D'Ezekiel, oui, merci. et puis, bah, voilà, un mouvement qui se renforce. Le fait que tu sois un des piliers de la direction artistique et que tu t'occupes de choses numériques n'y est pas étranger.
Oui, oui, on peut dire qu'il y a de ça. Et puis, il y a aussi vraiment des changements plus profonds, je dirais. C'est-à-dire que même sur le portage du projet, 100%, aujourd'hui, il y a eu un gros virage puisque l'événement est maintenant porté par Illusion et Macadam et puis Bipolar, donc un bureau de production et de diffusion de projets plutôt orientés art numérique. Et puis, Illusion et Macadam, qui est vraiment un accompagnateur de projets culturels. Donc ça, c'est vraiment... un virage important pour nous et puis effectivement ensuite ce virage s'est accompagné d'un projet repensé de A à Z et évidemment donc sur sa ligne artistique aussi, ouais.
Alors comment s'est faite la programmation de cette première édition de tropismefestival.fr pour internet?
Bah déjà elle s'est faite en se questionnant par rapport à ce qu'on voulait faire, par rapport aussi à l'histoire de ce festival. Comme tu le disais, depuis 5 ans maintenant, effectivement, on a des propositions beaucoup plus larges, pluridisciplinaires, dans différents lieux de la ville. On travaille aussi avec le centre chorégraphique sur des propositions plutôt performatives, on va dire. Et donc, voilà, ça a commencé comment? Ça a commencé déjà en se questionnant. Vers quoi on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et qu'est-ce qu'on fait, nous, déjà, aussi à l'année, avec les deux structures dont je parlais tout à l'heure? Effectivement, on est sur des projets qui sont essentiellement portés par des artistes numériques, mais pas seulement. Et puis, l'équipe, on va dire, l'équipe du festival qui programmait déjà l'événement, on va dire, avait, je pense, cette soif et cette curiosité d'amplifier le virage vers la pluridisciplinarité. Donc ça a commencé par ça, et puis ensuite, eh bien voilà quoi, l'envie de développer vraiment le projet sur les arts plastiques, donc en s'associant avec la Galerie Alma, avec les Beaux-Arts, avec la Galerie Saint-Ravi, la Galerie de la Ville, en travaillant aussi avec la Panacée, en faisant le lieu de vie du festival, et puis aussi, évidemment, en continuant sur la partie musique, en travaillant avec tous les lieux un peu emblématiques, le Rockstore, le Jam, le Trioletto, etc. Là où on peut voir des bons concerts habituellement, de toute façon.
Voilà, ou encore le Black Sheep, puisque c'est à 22h avec Lou Gandloff et Frédéric Mancini que ça démarrera le 18 février. Au Black Sheep.
Ouais, ouais, ouais. Et puis ça, ce projet un peu à l'image de l'événement, parce que c'est vrai qu'au départ, il a été pensé avec Living Room, qui est une galerie d'art contemporain, on va dire nomade, donc qui a pas de lieu figé. Et puis on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire avec eux, avec elles, parce que c'est essentiellement des filles dans cette équipe. Et puis on a finalement eu le souhait d'inviter De Boule Vanille, donc un groupe qui est composé notamment de Frédéric Mancini, qui lui est un plasticien et qui a ce projet assez étonnant, un projet de groupe avec deux batteries. Déjà en soi, c'est un peu perché, quoi. Et puis surtout, ils utilisent leurs batteries comme on utiliserait des samplers. Et voilà, donc ouais, une belle proposition avec un super nom en plus. Donc ça nous plaisait bien.
Et puis toujours le 18 à 19h, un petit peu plus tôt, ce sera à la Galerie Saint-Ravi qu'on pourra voir la boîte de Gangpol Unmit.
Oui, Gangpol Unmit, qui ont déjà été invités sur le festival. Donc là aussi, le suivi des artistes, c'est quelque chose qui ne nous dérange pas du tout, de réinviter des artistes qui sont déjà venus, de suivre leur évolution. Et Gangpol, vraiment, c'est un projet qui a été signé notamment par Mike Patton aux États-Unis, et puis là, qui revient avec un projet qui n'est pas du tout un projet de concert, mais un projet d'expo. Donc on voit bien qu'on a des artistes là qui sont vraiment touche à tout. Et puis cette expo, ce qu'elle a d'intéressante aussi, c'est qu'elle s'adresse surtout aux plus jeunes, à partir de 6 ans. Donc pendant toute cette semaine du 18 au 23, surtout profitez-en, venez avec vos enfants, parce que c'est une exposition dans laquelle absolument tout est à toucher, ce qui est absolument pas fréquent.
Rare.
Ouais, voilà, plutôt fréquent dans les expos. Donc là, c'est le contraire, on va pouvoir fabriquer des images, on va pouvoir fabriquer des sons électroniques. Voilà, donc, et puis aussi, donc effectivement, comme tu le disais, le 18 à 19h, une performance à la Galerie Saint-Ravi. Et tout ça un peu au moment, on va dire, du vernissage, et donc même, je dirais, du vernissage du parcours d'exposition, puisqu'on a 4 expositions dans la ville.
Voilà, une exposition qui sera à voir à partir du mercredi 19 et jusqu'au dimanche 23 de 9h à 19h, donc à la galerie Saint-Ravi. La jauge est limitée, mais l'entrée est libre. Toujours ce mercredi 19 à 21h, ce sera au Jam que l'on pourra voir Christophe Chassol avec My Tiger Side.
Oui, déjà My Tiger Side, Rémi Saboul qui jouait avec Rhinocéros, et là qui revient avec un projet que moi j'aime beaucoup, qui nous plonge déjà dans un voyage avec ce qu'on pourrait appeler une musique presque filmée, quoi, une musique de film pour faire simple, un peu à la Paris Texas de Wim Wenders, ce type d'ambiance un peu psyché aussi. Et puis derrière, eh bien, le voyage continue avec Chassol et son projet audiovisuel, vraiment résolument audiovisuel, qui s'appelle India Mort. Et là, c'est vraiment un parcours des sons et des images de l'Inde du Nord, et voilà, c'est vraiment une super belle proposition qu'on fait là au Jam.
Voilà, ce sera donc à 21h le mercredi 19, mais le même jour à 12h30, c'est à la Panacée qu'on pourra voir System Introspection, on le traduit à l'envers, donc c'est l'introspection du système, de Nicolas Maigret.
Oui, ça, ça intègre un programme, une partie aussi du programme qui est vraiment tournée vers les performances. Donc celle-ci, effectivement, avec Nicolas Maigret à 12h30, et où en fait il nous emmène dans un voyage à l'intérieur de son ordinateur. Il le sonde son disque dur, et tout ça prend des formes visuelles et sonores assez étonnantes. C'est vraiment une belle proposition aussi. J'aime beaucoup cette performance. Et puis ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que Nicolas Maigret fait partie d'un collectif qui s'appelle Art of Failure et qui sera exposé, lui, à l'École des Beaux-Arts, dans le cadre de l'expo Transcodage 1.1. Donc voilà, là aussi, un artiste touche à tout, à la fois plasticien et à la fois créateur sonore, performeur. Et plein de choses encore.
Voilà, plein de choses encore à voir aussi côté science, fiction, culture, capitale avec Michael Selam qui sera du 19 au 23, de 14 à 19h à l'Esbama.
Oui, ça, Michael Selam, c'est aussi vraiment un artiste pourtant déjà très jeune, mais déjà pionnier aussi. Déjà très jeune et pourtant déjà pionnier, puisque vraiment il est reconnu maintenant sur cette scène art numérique depuis pas mal de temps. Et puis avec cette proposition, surtout, on met l'accent sur la transdisciplinarité, mais là pas dans les disciplines artistiques, mais plutôt au niveau de la création, c'est-à-dire comment à un moment un artiste va pouvoir travailler avec des entreprises, avec des chercheurs, parce qu'en fait cette exposition, elle fait suite à une résidence portée par l'ESBAMA, donc l'École des Beaux-Arts, et le BIC de Montpellier Agglomération. Et donc Michael a passé pratiquement un an à Montpellier, et il a travaillé avec des entreprises innovantes de Cap Oméga pour arriver jusqu'à cette exposition. Donc voilà, là aussi c'est une démarche qui nous intéressait particulièrement, parce qu'elle porte vraiment des choses qui nous intéressent aussi dans ce que raconte cet événement Tropisme.
Et puis alors côté concert, ce jeudi 20 février à 21h, ce sera le duo Fenez with Lil Evan pour un concert intitulé Oui de point mantra. On part dans le côté indien psyché.
Ouais, décidément, écoute, c'est vrai, on continue sur le côté psyché, très ambiant aussi. Bon, pour ceux qui connaissent Fenez, effectivement, là on est vraiment avec un artiste autrichien qui est vraiment une pointure de la création sonore contemporaine. Moi, j'appelle un peu sa musique, je la définis par des glitches de guitare. Et là, il est avec Lil Van, qui est un artiste de l'image, plutôt du cinéma d'animation, donc vraiment une proposition live audiovisuelle. Et puis, la proposition We Mantra, donc en première partie, avec Cubens, et puis Antoine Schmitt aussi, et Don Nino. Je parlerai surtout d'Antoine Schmitt, qui lui aussi est un artiste plasticien qui a aussi vraiment une pratique tournée vers les nouveaux médias, et là qui s'associe à deux musiciens pour cette proposition We Mantra. Voilà, on est super content parce que ça, c'est pareil, c'est vraiment un projet tout à fait récent qui a été montré pour la première fois cette année à Scopitone, donc là cet automne, et voilà, donc presque une première. Et par contre, sur Fenez, effectivement, c'est une date unique en France, donc ne manquez pas ça, avec des tarifs, ma foi, qui restent plutôt raisonnable, surtout si on a la carte du Pass Culture.
Absolument. Et puis, on parlait de l'École des Beaux-Arts. À y voir aussi le transcodage 1.1 du 19 au 23 février de 14 à 19h. Grégory Chatonsky, Art of Failure, Véronique Bélan à l'École des Beaux-Arts.
Oui, Grégory Chatonsky, qu'on est vraiment très heureux d'accueillir sur cette première édition de Tropisme, et qui est là un artiste reconnu sur la scène internationale, qui expose vraiment un peu partout, au Japon, au Québec, etc. On l'accueille avec 5 œuvres sur cette édition, donc vraiment c'est assez énorme pour nous. Et il sera donc effectivement exposé au Beaux-Arts et à la Galerie Alma. Et je peux aussi parler de Véronique Bélan, qui sera elle aussi sur cette exposition Transcodage 1.1 à la Galerie Alma. Comme on est à la radio, je peux en dire un mot parce qu'elle, elle écoute aussi la radio, mais d'une façon un peu spéciale, puisqu'elle utilise les radiotélescopes de l'Observatoire de Paris pour écouter les sons qui proviennent de l'univers. Et elle fait parler ces sons captés par ces radiotélescopes en leur collant une voix de synthèse avec des textes qui sont générés aussi de façon aléatoire, mais avec une banque une banque texte qu'elle a mis en place, et voilà, et ça donne au final un oracle improbable, quoi. Et c'est à la fois très 2001 Odyssée de l'espace et en même temps c'est plein d'humour, donc j'aime beaucoup ce projet, surtout que c'est une artiste qu'on accompagne à l'année en partenariat avec Le Frénois, Studio National des Arts Contemporains, et c'est un joli coup de projecteur sur cette jeune artiste québécoise.
Voilà, qui a la tête dans les étoiles, donc on l'aura compris. Ce jeudi 20 février, cette fois-ci concert au Triolet. Ce sera Gérald Curdian, Jérôme Hoffmann et Jean Poinsignon.
Alors c'est le vendredi.
Ah, et il y a une coquille sur mon papier.
Ah, la coquille. Donc oui, c'est le vendredi, on est au Trioletto effectivement. Et Gérald Curdian, vous le connaissiez peut-être sous le nom de This is the Hello Monster. C'est un Montpellierain dans l'âme, en tout cas pour une époque, puisqu'il a suivi la formation Exerce du centre chorégraphique, donc est vraiment d'ailleurs aussi une formation à l'image de ce type de projet, puisque Gérald, c'est vrai que c'est un chanteur, on peut le qualifier comme ça, un artiste de la chanson pop, mais aussi c'est un artiste vraiment touche à tout, et là aussi c'est quelqu'un qui s'amuse avec ses instruments, et puis aussi pour cette fois quelqu'un qui va s'amuser avec des images, puisque il a promené sa caméra un peu à la façon d'un documentaire, donc voilà, une proposition qui nous ressemble aussi. Et puis sur la première partie avec Jérôme Hoffmann et Jean Poinsignon, on est sur une proposition vraiment étonnante, qui est plutôt de l'ordre de la création sonore, mais là ça nous intéressait aussi d'avoir un peu cette possibilité d'avoir des propositions très pop associées à des propositions qui soient plutôt un peu plus expérimentales sur des premières parties. Et là, ils jouent, on va dire, ils jouent des insectes, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont enregistré de nombreux sons d'insectes qu'ils transforment au fur et à mesure en une musique un petit peu plus sauvage.
Ouais. Alors on parlait de Véronique Bélan, qui fera partie de l'exposition Transcodage 1.1, mais elle sera aussi présente le 20 février à 12h30 à la Panacée pour le vide de la distance.
Oui, c'est ça. Donc une performance à laquelle elle se frotte, enfin une discipline à laquelle elle se frotte presque pour la première fois, parce que là, elle s'y essayait il y a quelques jours, justement sur une première tentative. Et donc là, elle va lire des textes qui sont produits par son installation. Donc le lien nous intéressait entre à la fois l'exposition Beaux-Arts et puis là, cette forme performative proposée à la Panacée. Ouais.
Et alors après Transcodage 1.1, ce sera Transcodage 1.2, ce sera de 14 à 19h pendant la durée du festival à la Galerie Alma, avec les travaux de Grégory Chatonsky et Pauline Delvaux.
Oui, on retrouve Grégory Chatonsky à la Galerie Alma, donc la Galerie Alma qui pour l'occasion va être occultée par nos équipes. Donc trois projets de Grégory, et puis à l'étage on trouvera le projet de Pauline Delvaux, donc là aussi une artiste qu'on accompagne, une jeune artiste qu'on accompagne avec Le Frénois tout au long de l'année. On va dire qu'elle est accompagnée par nous sur un accompagnement à la professionnalisation, on va dire, comment porter, présenter et représenter son projet, et produire des nouvelles œuvres. Et donc là, cette œuvre qui sera présentée chez Alma, c'est une cartographie sensible et poétique, on pourrait ajouter poétique, qui s'appelle Terra Incognita, c'est-à-dire qu'elle a pris vraiment la carte de le planisphère de notre chère planète, et elle l'a nettoyé de toutes ses couches informatives. Donc là, c'est pareil, on est un peu à contre-courant justement de ce qu'on peut avoir avec des projets comme Google Maps, etc., où on a vraiment, on est à la course à l'info, et là, c'est plutôt l'inverse. Elle a nettoyé complètement cette carte. Donc, on se retrouve face à une carte blanche où on a simplement les contours des lacs et le contour des mers. Et puis, on va naviguer par des toponymes. Donc, les seuls noms qui apparaissent sur cette carte, ce sont des toponymes, comme le lac blanc. Et la navigation se fait par association de sens. Par exemple, si je touche ou si je clique du doigt le mont blanc, je vais pouvoir me retrouver sur le lac blanc, et etc. Donc, là, c'est en fonction de son affinité pour les mots qu'on va naviguer dans cette cartographie. Donc un projet à la fois tactile, géolocalisé, etc., etc. Vraiment un projet pour le coup très numérique.
Alors à 18h18, à partir du jeudi 20 février, ce sera les 18h18, ce sont des super talks, j'imagine des discussions, débats. Jeudi 20 février, donc de 18h18 précise à 20h, ce sera la panacée pour un débat intitulé « Quand la musique s'électrocute ».
Oui, là, le jeudi, avec le Super Talk, effectivement, on va pouvoir revenir un peu sur l'histoire de la musique à partir du moment où l'électricité a fait son apparition. Ce format Super Talk, comme tu le disais, c'est un peu des super conférences en mode un peu stand-up, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une conférence figée. Tu sais que 18h18, chez nous, c'est un peu l'heure de l'apéro, donc effectivement, ça va être surtout ça et aussi une conférence quand même, bien sûr, mais vraiment fun avec beaucoup d'extraits visuels, d'extraits sonores. Et puis, ce sera aussi suivi d'un live avec un DJ à la panacée.
Et puis le lendemain, le 21 février, les 18h18 seront emmenés par Annie Abrahams et Igor Strohmeier, Natiot, Antoine Bout, Orion Choi, presque une étape locale.
Oui, presque une étape locale, pas tout à fait. On a quand même Antoine Bout qui est notre Belge préféré de la performance. Et puis Igor, effectivement, qui lui interviendra, mais à partir de Munich, voilà, à distance. Donc une performance qui est proposée avec Annie Abrahams. Et puis effectivement, en tout cas, ce qu'elle a de local, cette proposition, c'est qu'elle est proposée par Natiot, donc auteur, poète et puis aussi architecte. En tout cas, une Montpelliéraine avec qui on a vraiment souhaité travailler sur ce programme de performance Les Anormales. Et donc là, on est vraiment sur, on va dire, les nouvelles formes textuelles, les nouvelles formes de poésie sonore, pas vraiment sonore, mais en tout cas textuelle. Et voilà. Et donc, en ça, c'est vrai que c'est une proposition un peu locale.
Voilà, et puis donc le vendredi soir, le concert dont on parlait tout à l'heure de Gérald Kurdian, Jérôme Hoffmann et Jean Poinsignon. Samedi 22 février à 18h, on pourra voir Heart of Wolves ex Jabberwocky à la galerie Agnès B.
Oui, ouais, c'est un format sur lequel on a déjà travaillé l'année dernière, donc plutôt un showcase en fin d'après-midi. Et voilà, et c'est un partenariat qui nous intéresse aussi parce que finalement, c'est assez inhabituel d'aller voir un concert dans une boutique. Et là, pour le coup, on sait qu'ASB a quand même quelques affinités avec le monde de l'art. Et on est très content d'être partenaire avec eux sur ce type de proposition.
Et puis toujours samedi 22 février à 18h18, les Super Talks, ce sera une battle de Lynx.
Oui, la battle de Lynx. Alors là, c'est vraiment le combat du web. Chacun vient avec ses liens, donc n'hésitez pas à nous retrouver, venir avec une petite sélection de vos liens préférés, des choses que vous avez vues piocher, arpenter sur le web, des trucs un peu délirants, des trucs fun, des trucs voilà. En tout cas, ce qui vous a bien plu sur Internet, vous venez avec, vous venez les défendre sur le ring à la panacée, sur le ring du plateau média, et puis ce sera l'équipe de l'œil de Lynx, donc l'émission de Canal+, qui sera là présente avec nous et qui
avec leurs costumes bizarres.
Avec leurs costumes bizarres, ouais, comme tu les as peut-être déjà vus sur Internet et qui désigneront le vainqueur.
Et puis à 20h ce samedi 22 février, ce sera au studio Bagouet qu'on pourra voir de la deep aerobic avec Miguel Gutiérrez.
Ouais, alors là, pour le coup, une proposition qui n'est pas du tout numérique, qui est par contre assez psychédélique. Barré. En tout cas, effectivement, c'est un cours d'aérobic avec un dress code obligatoire. Donc, si vous venez, n'oubliez pas vos collants fluo et puis vos hauts Adidas pour, ou Nike ou Reebok, pour citer trois marques. Mais en tout cas, voilà, le truc, c'est vraiment de venir participer à un cours de gym avec Miguel, qui est un performeur new-yorkais vraiment reconnu, vraiment barré. Et puis je crois qu'il y a un petit côté dictateur aussi quand même sur ce projet de performance. Donc c'est fun, mais méfiez-vous.
Méfiez-vous. Et puis le 22, toujours samedi 22 février à 22h, ce sera au Black Sheep qu'on pourra voir et entendre celui avec lequel nous ouvrions et nous refermerons cet entretien. Jonah, ce sera au Black Sheep donc à 22h. L'homme qui sait faire sauter les bras des platines au sens propre comme au sens figuré.
Voilà, au sens propre, figuré, lui-même bien figuré dans sa pratique, parce que je dois dire que ce qui nous plaît vraiment chez Jonah, c'est cet aspect où on n'a pas du tout un DJ figé derrière ses platines. Jonah, lui aussi, c'est un peu un performeur à sa façon, il suffit de le voir. Il a une vraie implication physique, il utilise les bras de ses platines comme on utilise un archer, et là, pour le coup, c'est vraiment au sens littéral. Et voilà, et donc, et surtout, il a un album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et on a écouté des extraits, on va encore en écouter un, et voilà, donc ça avait tout son sens qu'on invite Jonah sur cette édition.
Et puis on va terminer en précisant, parce qu'on a pris beaucoup de temps, que le dimanche 23 février, ce sera la fête du festival, donc la Saint-Tropisme. Un dimanche à la plage, ce sera le 18h18 qui se déroulera de 16h16, comme quoi il faut rester imaginatif, jusqu'à 18h, ce sera à la Panacée.
Oui, alors là, c'est un petit peu le rendez-vous final de l'événement de Tropisme. On va dire que c'est l'occasion déjà de se retrouver, de peut-être boire un coup, 16h16, un dimanche, c'est peut-être un peu tôt, mais je pense que ce jour-là, on aura peut-être envie quand même de fêter ça. Et puis, c'est l'occasion de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur de cette édition, et puis de se projeter peut-être sur la prochaine. Et puis voilà, on va se passer des extraits, des photos, de tout ce qui a été glané pendant l'événement. Et je pense que ça va être un moment vraiment très sympa, quoi.
Voilà, et puis plein de rencontres à faire dans le cadre de ce festival. Mercredi 19 février, ce sera Kiss Kiss Dating avec le CEO de Kiss Kiss Bang Bang, Adrien Aumont. Ce sera à la Panacée, gratuit sur inscription. Il y aura aussi les clusters musicaux toute la matinée à Victoire 2, gratuit sur invitation là aussi. Retour sur expérience de Substance Son, ce sera à l'École des Beaux-Arts de 10h30 à 12h le 19. Toujours le mercredi 19 de 14 à 17h, parcours d'artistes, ils seront tous à la Panacée pour vous rencontrer. On retrouve toutes les autres rencontres, on parlera de cours en ligne massivement multi-élèves, enfin les MOOC comme on dit. En ce moment, on parlera de transcodage, codage à la traduction, comment réconcilier culture et économie au service de l'intérêt général, ou encore travail transversal, plein de rendez-vous à la vignette, à la Panacée, un petit peu partout. Donc je ne saurais trop conseiller à ceux qui nous écoutent, et ils ont raison, d'aller sur tropismefestival.fr pour tous les détails.
Oui, c'est vrai, on a été un peu vite sur cette partie. Simplement, effectivement, les gens peuvent retrouver tout le programme sur le site internet. On a beaucoup parlé de la partie artistique, et pour le coup, pour nous, sur cette édition et sur cette nouvelle forme du festival, la partie rencontre, donc plutôt orientée vers les pros, est vraiment importante et déjà conséquente cette année. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur tout ça. On a des invités qui sont quand même, ma foi, des invités de marque qui viennent d'un peu partout. Et voilà, l'ambition du festival, c'est bien de faire venir tous ces gens-là, et puis aussi d'y donner une dimension qui soit pas simplement un rendez-vous entre acteurs locaux, mais voilà, un vrai temps d'échange avec des profils venus d'un peu partout.
Il y a aussi des formations dans le cadre de ce festival Tropisme, du 17 au 21 à peu de choses près, que ce soit sur la scénographie numérique, la conception et la diffusion de conduite lumière, que ce soit sur les nouvelles formes de coopération entre acteurs économiques, comprendre le modèle du livre numérique ou encore médiation pour les arts numériques. Donc voilà, tropismefestival.fr pour avoir toutes ces informations complémentaires qui sont nombreuses, abondantes et bien détaillées. Grégory Diguet, on te remercie d'être venu dans les studios de Divergence pour nous parler de tout cela. On vous souhaite eh bien, une excellente édition du festival Le Tropisme, premier de ce nom-là, mais 12e année quand même du 100%. Et on se quitte avec Jonah, rajoute du sel, il y a trop d'épices. C'est le deuxième extrait de son album Polychrome. Très bon festival à tous.
Ouais, merci, à bientôt.
Salut. Et c'est ainsi que se referme cette auberge espagnole. Oh, je vous laisse passer une excellente semaine. Je vous retrouve dans quelques semaines. Et en attendant, je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute des programmes de Divergence FM. Et je n'oublierai pas de remercier Bruno Bertrand qui a réalisé la technique de cette auberge espagnole. Salut à tous, salut à toutes et que la farce soit avec vous.